Europe 1 Culture Média. 9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de finir la semaine avec vous et Culture Média. Et la semaine se termine bien. On a eu hier soir les audiences radio pour Paris-Île-de-France. On est très contents. Je vous donne le détail dans quelques secondes. Nous sommes ensemble pour 2 heures en direct et vous pourrez évidemment podcaster ou la partie qui vous manque sur Europe1.fr dans les indispensables par exemple. Il y aura notamment de la gastronomie avec des salades et le retour de Laurent Mariotte. Notre infomédia avec une toute nouvelle revue Mentor, un journal dont la promesse est de nous aider à rendre le monde meilleur, rien que ça, avec des articles sur l'écologie ou l'économie, de grands entretiens avec des philosophes, mais également des pages pratiques pour le gainage et les abdos. C'est signé de l'ancien coureur cycliste Erwan Montéour, il sera avec nous. Et puis nos invités, tous les deux, cochent la case humour. Philippe Lachaud, comédien, réalisateur à succès avec Alibi.com ou Babysitting, il présente une nouvelle émission, LOL Kiri sort, c'est le titre, concept diabolique à partir d'aujourd'hui sur Amazon Prime Video. Enfin, l'humoriste Elodie Pou, ancienne animatrice périscolaire, elle publie un livre presque pour les enfants, ça s'appelle Les minutes non éducatives d'Elodie Pou. Je vous donne juste une punchline, observer les enfants, jouer, vivre, c'est merveilleux comme moyen de contraception. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Luce Bernard.
Bonjour, bonjour.
Bonjour, bonjour Antoine Janton.
Salut Philippe, bonjour à tous.
Au sommaire Antoine de votre journal des médias.
Un nouveau magazine d'enquête en kiosque aujourd'hui. L'ouverture d'une information judiciaire dans l'affaire Morgane Large, on en a beaucoup parlé ici même. Et puis la mort d'un grand historien, l'un des premiers visages de l'histoire sur Arte.
Mais d'abord les audiences avec vous Luce Bernard, qu'ont regardé les Français hier soir.
Alors rien d'étonnant, hein, c'est la suite de Léo Mattei qui s'est classé en tête avec la moyenne des deux épisodes inédits. Donc 5 100 000 téléspectateurs devant leur télé, 24% de part d'audience, en très légère baisse de 200 000 téléspectateurs par rapport aux soirées précédentes. Puis c'est France 3 avec son film, un bon score, hein, 2 300 000 téléspectateurs ont regardé Un village presque parfait, 10,1% de part d'audience. Puis c'était le lancement du nouveau divertissement Show Me Your Voice, on en a parlé avec votre invité Issa Doumbia.
Est-ce qu'on lui apporte chance?
Alors, bah déjà, c'est mitigé. Honnêtement, c'est mitigé. C'est pas un lancement éblouissant. Hein. 2 200 000 téléspectateurs, 10% de part d'audience, mais leader sur la cible commerciale. Les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, vous les connaissez, 20,5% de part d'audience, et ça c'est bien pour M6.
Ah oui, vraiment.
À noter aussi quand même le très bon score de TMC avec Black Panther. 1 700 000 téléspectateurs, 8,7%, c'est la même part d'audience que France 2 qui diffusait Envoyé spécial. Un bon score aussi, 1 900 000 téléspectateurs, 8,7% de part d'audience.
Donc. Et puis j'en ai parlé un mot des audiences, mais en radio, hier soir sont tombées les audiences pour Paris-Île-de-France, et bien on n'est pas mécontents. Europe 1 est l'une des rares stations à progresser en audience cumulée, plus 50 000 auditeurs sur un an. Comme en part d'audience, avec 7,5% plus 1,6 point. Et pour ce qui est de Culture Média, ce qui nous concerne, nos audiences sont en hausse grâce à une durée d'écoute record, 66 minutes par auditeur, 17 minutes gagnées en un an. Et là, je vais être un peu technique, je m'adresse aux puristes. Au global, avec 8,7% de part d'audience, Culture Média gagne 1,3 point en un an, plus 18% sur Paris-Île-de-France. Encore une fois, merci à toutes et à tous, merci de votre confiance et merci de le faire savoir autour de vous.
Culture Média.
Il fallait que ce soit dit, ça nous faisait plaisir. Place maintenant à votre journal des médias, Antoine Janton, avec à la une nouvelle revue qui arrive en kiosque aujourd'hui.
Ouais, elle s'appelle L'Envers des Affaires. C'est un trimestriel initié par Carl Zéro, qui en est le rédacteur en chef et qui signe plusieurs articles. Le magazine revient sur de grandes affaires, des histoires parfois mystérieuses, vous allez le voir. Il le fait dans de longues enquêtes éloignées de l'actualité immédiate. Carl Zéro.
Tout va tellement vite maintenant qu'on est paumé. On est bombardés tous, hein. En plus avec le téléphone portable, machin, on a tout le temps des infos, on n'arrive pas à faire le tri, et puis on apprend des trucs, et on n'a jamais le fin mot de l'histoire. Et donc l'idée c'est de prendre le temps d'enquêter, donc de faire le boulot de journaliste vraiment, et de raconter les choses exactement à la fois comme elles se sont passées, même ce que d'autres n'oseraient pas dire, parce que ça peut créer des problèmes, d'où l'idée aussi de faire un journal indépendant, et en même temps, d'avoir le temps de lire, de s'arrêter, de reprendre. En fait, le côté physique de l'objet papier est génial. Peut-être c'est ringard, mais en fait pas du tout, parce que t'es content, tu l'as chez toi, quoi. Tu tombes dessus, tu dis « Oh putain, je vais relire ça !»
Voilà, et dans ce premier numéro, il n'y a que 5 sujets, c'est tout. La mystérieuse disparition du vol MH370, vous vous en souvenez peut-être.
Bien sûr.
Les dessous de l'affaire Patrice Allègre. La mort des sœurs Pizier, Marie-France et Evelyne. La drogue et les nazis, c'est un dossier historique. Et puis une longue enquête, elle a duré plusieurs mois, sur le tueur en série Michel Fourniret et ses complices. Une enquête menée par le seul journaliste à l'avoir interviewé en prison, Oli Poli Santoro. Le tout pour un prix plutôt abordable, Carl Zéro y tenait, 5,95€.
Normalement, une revue, c'est autour de 20€. Là, on l'a mis à 5,95€ parce qu'elle est distribuée chez tous les marchands de journaux. Donc, on veut toucher un public qui est quand même infiniment plus large que la plupart des revues. Il faut que tout le monde puisse lire cette revue. Il ne faut pas que ça soit excluant parce que soi-disant chic, soi-disant germano-pratin, soi-disant ceci ou cela. Il faut que, même si tu ne connais pas du tout l'histoire au départ, tu rentres dedans et tu es happé. C'est populaire au sens noble.
Voilà, une revue populaire, L'Envers des Affaires, premier numéro, c'est aujourd'hui en kiosque.
Et pour paraphraser Carl Zéro, tu tombes dessus, tu dis « Ah putain !» Les suites de l'affaire Morgan Large, en Bretagne, une information judiciaire vient d'être ouverte.
Information judiciaire contre X pour, notamment, entrave concertée à la liberté d'expression et pour destruction, dégradation ou détérioration d'un bien de nature à créer un danger. Un magistrat instructeur va mener l'enquête, c'est ce qu'a annoncé le procureur de la République de Saint-Brieuc hier, 10 jours après la plainte déposée par Morgane Large, une journaliste dont la voiture avait été sabotée à la fin du mois dernier. Elle avait également reçu des menaces ces derniers mois suite à ses enquêtes sur l'agro-industrie en Bretagne.
Et la mort d'une figure, un historien qu'on a souvent vu à la télévision.
Marc Ferraud, l'un des plus grands historiens français, spécialiste de l'URSS, de la Russie, des guerres du XXe siècle. Il s'est éteint hier à l'âge de 96 ans. Son visage était connu des téléspectateurs. Il avait animé une émission d'histoire, Histoire parallèle, sur la 7 puis sur Arte, de 1989 à 2001. Marc Ferraud, historien du cinéma aussi, documentariste, bref, un homme que les images passionnaient. Patrick Cohen l'avait reçu l'an dernier sur Europe 1. Il lui avait alors demandé quelles étaient les images récentes qui, selon lui, allaient marquer l'histoire.
Il y a les images pathétiques, bien sûr, tout de suite. La Syrie, tout ça. Et puis les migrants, bien sûr, en Grèce ou ailleurs. Et puis également à la frontière américaine avec le Mexique. C'est ça qui frappe, bien sûr. Mais tout est tellement manipulé maintenant que je deviens suspicieux sur les problèmes de l'image.
Voilà, Marc Ferraud, il y a un peu plus d'un an sur Europe 1, hier le président d'Arte, Bruno Patino, a fait part de sa grande tristesse. Arte lui doit beaucoup, a-t-il écrit sur Twitter.
Dans l'actualité des médias également, un geste rare et élégant.
Oui, celui du Guardian au Royaume-Uni. Le journal va rendre une partie des aides publiques qu'il a reçues l'an dernier au début de la crise sanitaire. Il s'agissait alors de lui permettre de payer les salaires de certains de ses employés. 1 600 000 livres vont être restitués, soit près de 2 millions d'euros. Le quotidien explique que sa situation financière s'est nettement améliorée et que les effets de la crise sanitaire ne se font plus sentir.
À peine lancée et déjà sur le déclin, l'application Clubhouse est en perte de vitesse.
Elle est de moins en moins téléchargée, un peu moins de 3 millions de téléchargements le mois dernier contre 9,5 millions en février, une baisse de 72% en un mois donc seulement. Une chute qui pourrait s'expliquer par le départ de quelques vedettes, quelques stars qui ont quitté ce réseau social de conversation audio après l'avoir fait connaître. Clubhouse qui était valorisé un peu plus de 3 milliards d'euros il y a encore quelques jours.
Et Apple qui se met au podcast payant.
Le géant du numérique va proposer une option qui permet aux créateurs de podcasts de proposer des abonnements payants, à eux de fixer le prix. Apple touchera 30% des recettes la première année, 15% ensuite. Les créateurs devront payer par ailleurs un abonnement annuel de 20€, pas énorme à la firme américaine. Une petite révolution dans l'industrie du podcast qui, bien souvent, peine à se rémunérer. Cela dit, les utilisateurs seraient prêts, eux, à mettre la main au portefeuille. 65% d'entre eux seraient d'accord d'après une étude CSA Havas Paris publiée l'an dernier.
Et le podcast de Culture Média est gratuit. Toutes ces infos, pour les retrouver avec d'autres dans la newsletter d'Europe 1, gratuite également. Inscription sur europe1.fr. Merci beaucoup Antoine Genton. Merci Louise Bernard. À demain. Non, pas à demain.
Non,
à lundi.
Bon week-end.
Pour un nouveau jeune des médias, j'allais justement dire, il y aura les audiences du week-end. Dans un instant, notre info média du jour qui va s'intéresser à un nouveau magazine qui veut accompagner le lecteur vers un monde meilleur. Nous serons avec son co-fondateur, Erwan Monteour, ancien cycliste professionnel, désormais coach et entrepreneur. A tout de suite.
Europe 1 Culture Média. L'émission de référence sur les médias. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Bondel.
Le dessin d'un poing serré, fièrement dressé, c'est l'image qui fait la une d'une toute nouvelle revue, elle s'appelle Mentor au pluriel. Le ton est ainsi donné, c'est un journal de combat, un journal dont la promesse est de nous aider à rendre le monde meilleur. Et pour cela, d'un côté, des articles sur l'écologie, sur les animaux, sur l'économie, sur la santé, sur des sujets de société aussi. Et de l'autre, de grands entretiens avec des personnalités combatives et inspirantes. Parmi elles, un philosophe, un entrepreneur et un nutritionniste, mais également, en fin de numéro, des images surprises, vous allez comprendre. Bonjour Erwan Montéour.
Bonjour Philippe.
Merci d'être avec nous. C'est vous qui venez de lancer cette nouvelle revue. Vous en êtes le cofondateur, mais également le directeur de la publication et le directeur de la rédaction. On va y revenir. Vous avez été cycliste professionnel avant de devenir coach et entrepreneur. Mais avant ça, on va commencer par parler du fond. Consacrons notre vie à rendre un monde meilleur. Le monde meilleur, pardon, c'est le slogan de Mentor. Ça veut dire quoi, rendre le monde meilleur ?
Je vais essayer de vous dire ça très vite. Rendre le monde meilleur, déjà, c'est comprendre les enjeux auxquels on est confronté. On est un carrefour civilisationnel. Le problème est que la plupart des gens ne sont pas conscients des enjeux auxquels on est confronté, des enjeux climatiques, sociétaux, environnementaux, économiques, parce qu'il va y avoir des gros problèmes. Et le but du jeu, rendre les gens heureux, changer le monde, et bien c'est d'abord le comprendre. Et une fois qu'on est capable de le comprendre, on est capable de consentir des sacrifices pour modifier sa façon de vivre et ainsi avoir une vie meilleure et rendre le monde meilleur parce que notre comportement a une incidence directe sur la marche du monde.
Pourquoi ce titre Mentor ? J'ai regardé dans le dictionnaire. Mentor, c'était le précepteur de Télémaque, le fils d'Ulysse dans l'Odyssée. Et par extension, un mentor, c'est un conseiller expérimenté, un guide attentif et sage. Pourquoi Mentor ?
Alors si je dois dire toute la vérité, c'est mon associé, mon premier associé, parce que nous sommes trois associés, c'est Patrick Guérinet qui est venu me voir et qui me disait « Erwan, t'es un mentor pour les gens dans tout ce qui concerne le sport, l'alimentation, tu parles beaucoup d'environnement, j'étais très engagé dans cette cause-là jusqu'ici. » Et j'ai mis du temps à déclencher sur ce sujet. Et mentors, en fait, moi, l'idée du mentor, c'est quoi ? C'est pas moi le mentor, c'est qu'il y a des gens dans l'histoire de l'humanité, qui ont eu une idée. Cette idée, elle a jailli dans leur cerveau et elle a changé la face du monde. Ils ont consacré leur vie à changer le monde. Et ces gens-là sont inspirants et ces gens-là doivent être notre exemple et nous inspirer. Devenons tous des mentors.
Et je vais être un tout petit peu lacanien, c'est que dans votre patronyme Montéour, il y a le mot mentor. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est volontaire ?
Non, c'est complètement un hasard.
On rajoute un H, un E et un U et on a Montéour.
Ouais. Et pourtant, ça n'a rien à voir parce que Montéour, c'est en breton, enfin en celte, c'est celui qui bat la pierre et par extension...
Oui, ça n'a rien à voir, mais après, on peut le faire exprès. Vous savez qu'En Marche s'appelle En Marche parce que ce sont les initiales d'Emmanuel Macron. Bien
non,
sûr,
non.
EM.
Ah non, non,
c'est... EM, c'est... En Marche, Emmanuel Macron, c'est Mentor, Montéour.
C'est un hasard total.
Qu'est-ce qu'on peut lire dans Mentor ? Alors, qu'est-ce qu'on y trouve ? Parce que même dans son déroulé, c'est un journal pas comme les autres.
Oui, déjà, on voulait faire un truc vraiment atypique pour... Il s'agissait d'abord d'informer tous les sujets d'importance, selon moi. Il y a des sujets, il y a un premier dossier tout de suite sur le conspirationnisme, qui est un mal qui nous ronge aujourd'hui, parce que il y a une telle défiance à l'égard des autorités morales, sanitaires, politiques, religieuses aujourd'hui, que les gens s'affluent où ils en sont, et puis le Covid nous est tombé dessus, et donc là, alors, c'était le lit, le terreau idéal.
Peut-être avec raison, aussi. Je ne suis pas en train de faire le conspirationniste, je rappelle juste qu'on porte tous les deux des masques, on nous a expliqué que ça ne servait strictement à rien, pour ensuite nous mettre une amende si on n'en portait pas.
Oui, bien sûr.
On peut comprendre que les gens soient déboussolés.
Oui, mais en fait, évidemment, il y a eu énormément de maladresses, et d'ailleurs, s'il y avait eu du conspirationnisme, il n'y aurait pas eu toutes ces maladresses.
Ça, c'est vrai.
Parce qu'ils seraient certainement comportés autrement, parce que là, je pense que Macron a pris une sacrée branlée pendant toute l'année dernière. Il est en train de revenir dans les sondages. On va voir ce qui va se passer. Non, justement, on essaie de faire traiter des sujets de société et essayer de trouver la vérité. Il n'y a pas une vérité. Nous allons essayer de permettre tous les pluralismes, de permettre aux gens, on donne la parole à des gens avec qui on n'est pas d'accord.
Ah, alors vous dites, vous donnez la parole, et en même temps, ce sont quasiment que des morts. Einstein, Nelson Mandela, Mère Teresa, oui, Anna Arendt, Jane Goodall, Frida Kahlo, Martin Luther King, Raoni, Gandhi, il est toujours vivant, Gandhi, Winston Churchill.
Oui, mais c'est ceux qui nous inspirent. Ouais. À l'intérieur, il y a plein de nouveaux mentors.
Ouais.
Je veux dire, quand on parle à Maxime de Rostolan, c'est quelqu'un qui est extrêmement inspirant, c'est le nouveau Nicolas Hulot, il a d'ailleurs travaillé longtemps avec Nicolas Hulot. Vous avez Gilles Boeuf, qui était l'équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité et la mer. Mm-hmm. Et quand on vient de voir le documentaire sur Netflix, Seaspiracy, on prend une claque énorme parce qu'on se rend compte que le GIEC a été créé en 1989 et tous les ans a produit des calculs probabilistiques et tous leurs worst-case scénarios ont été explosés par la réalité.
Worst-case scénarios, c'est-à-dire les pires scénarios.
Les pires scénarios ont été explosés par la réalité.
Il y a toujours un scénario positif, un négatif, et c'est plus bas que le négatif.
Et en 2018, on a produit plus de gaz à effet de serre qu'en 66 millions d'années.
On a parlé hier de la journée du climat, on a beaucoup parlé du climat, et Mentors ne se résume évidemment pas à ça. Dès les premières pages, vous publiez les 10 commandements de Mentors. Je vais citer le respect de l'environnement, de l'individu, de la santé, le respect des animaux, la promotion du végétarisme, la liberté d'expression, la liberté d'information, on est tous d'accord. Vous dites « Mentors croit à l'information libre, non filtrée, non influencée ». Ça veut dire quoi, non filtrée ?
Alors, vous n'êtes pas sans savoir que lorsque vous avez un fonds d'investissement qui est derrière un média, il y a eu beaucoup d'histoires, par exemple, autour de Canal+, lorsque Bolloré est arrivé. Ouais. On sait qu'un patron, un fonds d'investissement qui détient un média, va imposer des choses dans la ligne éditoriale du média. Donc, il y a des médias institutionnels. Ensuite, il y a des médias qui sont de droite, donc qui vont promouvoir une certaine idée. Il y a des médias de gauche qui vont promouvoir des idées de gauche. Nous, on n'est ni de gauche ni de droite. On est à la recherche de la, on est en recherche de la vérité. Notre pensée est en mouvement et elle peut évoluer.
Vous présentez Mentors comme un bookzine, c'est quoi ? Moi, je connaissais le MOOC, qui était la contraction de book et de magazine. C'est quoi un bookzine ?
C'est à peu près la même chose. Un bookzine, c'est un livre, c'est quelque chose qu'on va garder. On a choisi de faire un trimestriel qui soit beau, pour qu'on ait envie de le garder, qu'on ait envie de se poser, de faire un pas de côté, parce que je pense que c'est ce qui nous manque. Aujourd'hui, l'information, elle s'empile, les informations s'empilent les unes sur les autres, et on n'est plus capable d'avoir suffisamment de discernement pour trier ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Là, c'est s'arrêter, prendre le temps, réfléchir, faire des arbitrages. Faire des arbitrages pour choisir sa vie, ce n'est pas prendre une décision entre une bonne et une mauvaise solution, sinon ça serait des enfants qui pourraient arbitrer.
Voilà, on continue à parler de Mentors, on est avec Erwan Monteour, Culture Média continue, à tout de suite.
Europe 1, Culture Média. 9h, 11h, Philippe Vandel. 9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Erwan Monteour, créateur de cette revue Mentor, revue trimestrielle, disponible en kiosque et en librairie pour 15 euros, également disponible aussi par abonnement. Alors dans Mentor, les 30 dernières pages, on l'a dit, il y a des portraits, il y a des interviews de philosophes, d'économistes, Jacques Attali par exemple, entre autres. Et les 30 dernières pages sont vraiment surprenantes, on ne s'y attend absolument pas quand on ouvre la revue, car elles sont consacrées à la santé, à l'activité physique, à l'alimentation. Vous donnez d'ailleurs des conseils, pourquoi y consacrer autant de place et non pas deux petites pages dans un coin ?
Parce que je pense que c'est hyper facile de soulever des lièvres, de dire voilà, il y a des gros problèmes, il y a des gros sujets... Il faut essayer d'être pragmatique et de proposer des solutions à ces problèmes. Mmh. Et comment changer les choses si on ne change pas soi-même ? Donc on va accompagner les gens en déployant des solutions pragmatiques autour d'eux pour leur permettre d'être les acteurs de leur changement.
D'accord. Moi, ce qui m'a vraiment le plus étonné, c'est un papier « 6 semaines pour renaître » signé par vous, « 6 semaines pour retrouver son poids de forme »,« Bodyweight conditionnement » et alors 16 exercices du programme Bodyweight avec des exercices de gainage d'abdos. J'avais jamais vu ça dans une revue qui, pendant les premières pages de la revue, interview des philosophes.
Écoutez, il faut comprendre que on est construit selon un schéma systémique.
Ouais.
Pour aller bien dans sa tête, il y a quelque chose qui s'appelle l'homéostasie, c'est l'équilibre biochimique intérieur. Et pour aller bien, il faut prendre le contrôle de son corps.
Mmh.
Donc, c'est-à-dire qu'il faut donner le matériel à notre corps pour lequel il est conçu, et aussi lui donner une activité physique qui lui permette d'évacuer tous les toxiques accumulés.
Mmh.
En 40 jours, c'est l'équivalent du renouvellement cellulaire, on prend le contrôle et on est capable de faire justement des arbitrages, de voir plus clair.
Je suis absolument d'accord avec vous, mais là je vous pose une question média. Quand il y a des entretiens qu'on lit, on pourrait trouver peut-être le même dans le monde diplomatique. Mais à la fin du monde diplo, il n'y a pas des squats. Il n'y a pas la manière de faire du medicine ball.
Mais en fait, les gens ne savent pas par où commencer pour aller mieux. Moi, mon but, j'étais un thérapeute pendant des années, c'est-à-dire, vous voulez aller bien, vous voulez aller bien socialement, parce que le bien-être, c'est un bien-être physique, mental et social, selon l'Organisation Mondiale de la Santé.
C'est vrai.
Eh bien, on propose le bien-être social en expliquant les grands enjeux sociétaux qui sont à l'ordre du jour, et puis on s'occupe aussi du bien-être mental et physique.
un esprit sain dans un corps sain, et c'est pas seulement une formule, on retrouve tout ça dans Mentor. Vous écrivez, vous réalisez des entretiens dans ce journal, et vous témoignez également « Je suis vivant », c'est le titre de l'article que vous signez. Vous y racontez vos échecs, vos difficultés, vous parlez de vous, de votre personnalité. Pourquoi avoir choisi de vous ouvrir ainsi ?
D'abord, ça annonce une autobiographie qu'a commandé un de mes éditeurs chez Solar. J'ai toujours été très mal à l'aise. J'ai vendu beaucoup de livres et j'ai une communauté très, très large sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens qui achètent mes livres, qui me suivent sur les réseaux. Et j'ai jamais voulu jouer le rôle d'un exemple que je ne suis pas. Je ne suis pas ça. Et je tenais à dire toute la vérité, l'entière vérité sur mon parcours. Et c'est une façon d'amorcer cette vérité pour annoncer qui je suis vraiment.
Ouais.
Parce que c'est un peu compliqué pendant des années qu'on croit qu'on est quelque chose qu'on n'est pas. Et je ne voulais pas être un imposteur.
L'entière vérité, l'imposteur. Je vais mettre des mots sur ce non-dit, Erwan Montéour, parce qu'on ne peut pas vous comprendre sans connaître votre histoire. Vous êtes un ancien cycliste professionnel, je l'ai dit, ça remonte à près de 25 ans. Et votre carrière s'est arrêtée quand vous avez avoué vous être dopé. Vous ne vouliez plus empoisonner votre corps. Des aveux que vous aviez fait sur Europe 1, c'était en janvier 98, avec, vous allez l'entendre, et c'est ça aussi qui est très intéressant, un constat sans appel au sujet du sport professionnel.
J'ai pris certains produits, c'est une pratique courante. Ça fait partie des passages obligés de tous les sports professionnels aujourd'hui, je crois. Compte tenu des calendriers, compte tenu des distances, compte tenu de ce que les médias sollicitent au niveau des sportifs, ils veulent toujours qu'on aille plus vite, ils veulent toujours plus de spectacles. On est tenu aussi par des horaires pour les télés. C'est-à-dire que des fois, il faut accélérer pour arriver au bon moment devant la télé. Et c'est tous les jours pareil, toute l'année. Et les sponsors veulent tout le temps du résultat. Alors dans ce contexte, le sportif devient forcé, il est contraint de prendre des trucs. C'est s'il les prend pas à la limite, il va être tout de suite éjecté, il pourra pas tenir le coup. Et il le prend comme une victime, il est obligé de le faire. Le grand problème à l'heure actuelle dans ce milieu, c'est qu'on est déculpabilisé de ça, on trouve ça normal. Et on s'oublie un peu, on se perd. Et quand la carrière se termine, personne n'est là pour pleurer sur nos tombes. Le milieu, il reste, les gens qui sont autour restent, ils gagnent de l'argent. Et tout l'argent qui est véhiculé par le milieu, c'est pas spécialement pour le sportif en particulier, quoi.
Le milieu y reste. Quel regard vous portez sur le sport professionnel aujourd'hui ?
Alors, pour moi, c'est un magnifique laboratoire qui a été une expérience extraordinaire parce que ça m'a quand même appris la discipline.
Je vais dire les choses différemment. Est-ce que le milieu a changé depuis ce son qu'on vient d'entendre et cette confession de 98 ? Ou est-ce que les choses sont comme avant ?
J'ai envie de vous dire qu'il a changé, mais les mecs roulent plus vite qu'à notre époque.
Ouais.
Donc nous, on s'est chargé. Tout le monde a arrêté de se charger maintenant. Mais ils roulent plus vite que nous à l'époque. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Là où je voulais en venir, c'est que j'ai été dans un monde, un micro-monde, dans un laboratoire où c'était un empoisonnement systématique et collectif d'une population. Ce qui ressemble exactement à ce qui s'est passé au XXe siècle. Le XXe siècle aura été le siècle de l'empoisonnement de la biosphère, l'intoxication des corps et l'intoxication de la pensée, et notamment du rapport au doute.
Et à propos d'intoxication, pour qui se dit « Tiens, je suis exempt de ça, je suis à l'abri », il y a un papier passionnant que vous signez sur le sucre. Oui. Où vous montrez à quel point le sucre est encore peut-être davantage addictif que la cocaïne. Vous faites tout dans ce journal, c'est un choix. Ou c'est vous n'avez pas les moyens de payer d'autres journalistes. Vous voulez contrôler au maximum. Presque un tiers du journal est écrit par vous.
Non, d'abord ça a été très, très pragmatique, c'est parce qu'on n'avait pas les moyens, parce qu'on a fait un financement participatif justement pour conserver notre liberté éditoriale.
Ouais.
Je suis passionné par ce que je fais là, j'aime écrire des livres, mais j'aime faire des enquêtes aussi. Je partage ça avec Patrick Guérinet, qui est un mec extraordinaire, qui est un super rédac-chef. Maintenant, c'est une partie du travail. Moi je me consacre aussi à une autre partie du travail aujourd'hui, parce qu'on a un autre associé, Jean-Philippe Famba, qui est un des acteurs historiques du solaire en France. C'est lui qui a monté TerraWatt et Solar Direct. Donc c'est lui qui, à l'époque, a fait venir le solaire en Poitou-Charentes. Et aujourd'hui, on va se tourner aussi, on va essayer de développer Mentor et à travers des applications et des lieux physiques pour permettre de changer les choses et d'être des activistes. Vraiment à proprement parler.
Voilà, le thème du prochain numéro, on le sait déjà, vous nous l'avez dit tout à l'heure, c'est Cynthia Fleury que vous avez interviewé vous-même, c'est ça ?
Oui, hier j'étais voir Cynthia Fleury, le premier magazine était consacré à l'état des lieux, le deuxième magazine est consacré au courage, parce qu'il va falloir du courage pour changer, beaucoup de courage, Et il va falloir en insuffler, il va falloir inspirer les gens
voilà.
et leur montrer qu'il y a une voie.
Ce sera cet été, mais ce numéro est disponible en kiosque, pardon, c'est le numéro 1 et en Corse également. Ça s'appelle Mentor, un magazine très beau, très élégant, avec de très belles photos.
Merci.
On voit aussi torse nu, on a tous envie d'avoir vos ça vous fait marrer, mais on a tous envie d'avoir vos tablettes de chocolat. Merci d'avoir été avec nous, Erwan Montéour, dans Culture Média.
C'est moi.
Et bon vent pour cette revue. Dans un instant, nous serons avec l'acteur et réalisateur Philippe Lachaud pour une nouvelle émission qui démarre aujourd'hui sur Amazon Prime Video. Ça s'appelle LOL, celui qui rit sort. Il va pas sortir, il va rentrer. Culture Média continue, à tout de suite.
L'émission référence sur les médias, c'est Europe 1 Culture Média. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Philippe Lachaud.
Bonjour Philippe Vondel.
Vous êtes comédien, réalisateur, créateur de la fameuse bande à Fifi. Vous avez joué et réalisé dans des films comme Babysitting 1 et 2. Ça fait presque 6 millions d'entrées à 2 ou Alibi.com, 3,5 millions. Votre actualité, ça se passe à la télé, sur le petit écran, mais pas seulement, ou sur les applis aussi. C'est une nouvelle émission. Le titre, c'est bien ça, LOL qui rit sort.
Absolument.
Alors, c'est à partir d'aujourd'hui sur Amazon Prime Video. Il y a 6 épisodes de 26 minutes, mais on peut tous les voir d'un seul coup. LOL, ça veut dire Last One Laughing, le dernier qui rit. C'est un format qui vient d'où ?
Je crois que c'est un format japonais à la base, qui a été adapté après en Australie, au Mexique et maintenant qui arrive en France.
Alors expliquez le principe, c'est un peu la barbichette 2.0.
C'est un petit peu ça, en fait on met 10 artistes dans une pièce,
ouais.
Ils restent enfermés une journée et le premier qui rit sort, voilà, et ça continue comme ça jusqu'à ce qu'il en reste un seul.
Alors ils gagnent 50 000 euros, mais pas pour eux, pour une association. Les candidats, je vais les dire, les 10 humoristes, c'est Julien Arruti, Tarek Boudali, votre camarade, Fadili Camara, Hakim Djemili, Gérard Jugnot, Rim Kérissi, que vous connaissez bien également, Ken Kojandi, Bérangère Krief, Alexandra Lamy, Inès Reg, rien que ça. Et au début de l'émission, ce sont les invités qui font l'auto-promo de l'émission sans le savoir.
Le concept est chambé. C'est vraiment un challenge de se dire que tu dois faire rire mais que t'as pas le droit de rigoler.
Si je résume bien, les règles, pas droit au fou rire, pas droit au rire. Fou rire, c'est sûr. C'est un peu ma vie de faire ça en plus.
Quand je suis rentré dans la pièce, l'interrupteur du rire, je l'ai éteint.
Hello. Moi, mon métier, c'est de faire rire les gens. Et là, je vais me retrouver face à des gens qui sont censés ne pas rire. Donc, clairement, là, je viens pour bider. Et là, je me dis, il y a une bonne cause au bout du chemin.
L'option que j'ai prise, qui était d'être ridicule pour faire rire, s'est avérée que j'ai été ridicule.
Alors, comme au foot, là, c'est la voix de Junio qu'on vient d'entendre. Comme au foot, vous avez, Philippe Lachaud, vous êtes vous l'animateur, des cartons jaunes, des cartons rouges. Ils servent à quoi ?
Bah, ils servent à mettre un premier avertissement si je décerne un premier rire,
ouais,
ou un sourire. Et voilà. Et après, il y a un carton rouge, synonyme d'élimination définitive du jeu. La personne sort du jeu.
Alors, il faut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de boulot. Vous avez travaillé combien de temps sur cette émission ? Parce que ça se voit, c'est flamboyant.
Bah, en fait, on a eu la chance que ce soit une adaptation, donc on a pu reprendre des éléments qui existaient, et après on a écrit aussi d'autres choses pour essayer de faire un petit peu craquer les candidats.
Il y a plein d'entrées, évidemment. L'entrée de Junio est absolument formidable. Ça vous fait marrer, exact, d'y penser, j'y pense. Il est déguisé en Robin des Bois.
Non,
donc c'est super, mais ce qui est génial, c'est le coup de la prod. C'est la prod lui a dit que tout le monde était déguisé.
Non, ce qui est génial, pour ceux qui verront l'émission, c'est de voir quelqu'un comme Gérard Jugnot avec sa carrière qu'on connaît et qui se lâche complètement, ouais, dans le programme.
Mais là, il arrive en Robin des Bois et tous les autres sont en tenue de ville et il a l'air totalement pathétique, ouais, et ridicule. Je ne l'ai pas dit, il y a combien de caméras ? Parce que tout est filmé.
Il y a 50 caméras.
Voilà.
Ouais.
On est comme si on était dans le loft, sauf qu'on se marre. Il y a beaucoup de séquences visuelles, des séquences drôles. Alors, j'en ai trouvé une qui passe au son. Voilà ce qui se passe, c'est Kian Kojandi qui imite Gérard Jugnot. sauf que Kian, en fait, imite Christian Clavier.
Ouais.
Mais il fait croire qu'il le sait pas tout en le sachant. Et Jugnot rentre dans la danse, on écoute.
Non, les phrases cultes de la carrière de Gérard, c'est quoi ?
C'est ouais, ça va.
Genre,
tu vas bien ?
Ok !
Non, c'est pas ça, c'est pas du tout.
Dingue !
Gérard, c'est pas.
C'est Gérard. Mais bouffez-le, bouffez-le ! Ça, c'est Gérard,
non, c'est Christian Clavier. Enfin, quand même, comment
peut
se tromper sur des classiques ?
Gérard, ça.
Non.
Gérard ?
Oui.
Ok ! C'est toi, ça ?
Oui ?
Ok ! Dingue !
Mais qu'est-ce que c'est ?
Mais c'est toi, bah voilà, c'est Gérard, ça ! Mais bouffez-le, bouffez-le ! Vas-y, fais-le !
Bouffez-le, bouffez-le !
Mais voilà, c'est Gérard !
Non, c'est pas Gérard.
C'est Gérard de ouf.
Copain comme cochon !
Mais voilà, comme
c'est, ouais,
ça,
ouais,
voilà. Ok !
Mais y'a aucune reprise !
Mais y'a aucune reprise ! Vous y êtes ! Elle s'est niquée toute seule !
Là, c'est clair.
Voilà, elle s'est niquée toute seule, je dirais pas qui est-ce, comme ça, il faudra regarder. Le décor absolument grandiose, je l'ai pas dit, 1500 m². Il y a une cuisine américaine, il y a des sushis qui passent, on ne le voit pas trop, il y a un bar, ils ont beaucoup bu.
Non, je crois que je suis même pas sûr qu'il y avait de l'alcool. Mais
comme ça, vous êtes pas sûr. Vous étiez dans l'émission, vous le savez.
Ah, mais moi, j'étais pas avec eux. Moi, j'étais à côté. J'étais un petit peu l'arbitre.
Mais s'il y a de l'alcool, vous le savez. Dites-moi la vérité. Il y en avait ou il n'y en avait pas?
Peut-être il y en avait, mais
ou alors ils ont tout bu avant que vous arriviez.
Peut-être.
C'est vraiment.
Mais ils étaient obligés d'avoir à manger parce qu'ils restaient vraiment la journée entière, donc il fallait qu'ils se nourrissent.
Ouais. Et autre exemple de séquence, c'est Rim Kérissi qui chante une chanson glamour façon Mariah Carey. Elle est dans une robe pailletée hollywoodienne avec une coiffure spectaculaire. C'est elle qui chante et le texte, elle raconte le confinement.
2020, je te chie. Fifi, comment t'as fait avec les coiffeurs fermés pour gérer tes mèches blondes décolorées?
Fifi, c'est vous. On vous voit en train de faire la gueule. On ne sait pas si vous le jouez ou si vous ne le jouez pas. Vous étiez prévenu du texte ou pas?
J'étais pas prévenu. En fait, chaque candidat a une carte joker. Ouais. C'est-à-dire qu'il fait un petit spectacle pour essayer de faire rire les candidats, de les faire craquer en les surprenant. Et moi, je ne connaissais pas leur carte joker. Et donc, des fois, je me prenais des tacles gratuits et je ne pouvais pas intervenir. Ouais. J'étais dans ma salle et donc, voilà, parler de mes mèches, c'est vrai. À une époque, quand j'étais sur Fun TV il y a très longtemps, je faisais des petites mèches et voilà.
Ah bon, je ne savais pas. Alors, je ne vais pas tout dévoiler, mais dans le dernier épisode, même les sourires sont pénalisés. Il y a un moment où vous avez préféré Alexandre Alamy, quand même, qu'on a vu dans un genre qu'on ne lui connaît pas.
Ah, Alexandre aussi qui se lâche complètement.
Racontez, elle danse, mais racontez.
Alors, elle est partie dans une chorégraphie. J'ai trouvé ça incroyable. C'était très marrant.
Ouais.
Où effectivement, à un moment, elle se retrouve en, comment on appelle ça, en espèce de body.
En juste au corps.
En juste au corps, voilà. Sauf qu'elle n'était pas passée chez l'esthéticienne avant pour faire le maillot, quoi.
Ouais.
Et du coup, tout le monde était surpris et c'était dur de se retenir de pas rire aussi.
Voilà.
Non, les candidats sont vraiment lâchés. Certains sont venus vraiment avec plein de cartes. En fait, chacun avait le droit de venir avec une valise.
Ouais.
Il avait le droit de ramener ce qu'il voulait dans la valise.
Il y avait quoi dans la valise? Vous allez nous dire juste après ça. Philippe Lachaud, présentateur du jeu LOL Kiri sort. C'est sur Amazon Prime Video à partir d'aujourd'hui. Et c'est maintenant sur Europe 1. A tout de suite.
C'est OK.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie du comédien, comique, humoriste, réalisateur Philippe Lachaud, il présente l'émission LOL qui rit sort. C'est à partir d'aujourd'hui sur Amazon Prime Video. Il y a 6 épisodes, mais il y en a 5 qui sont disponibles tout de suite. Et le 6e sera seulement à partir de mercredi, parce que moi, je ne sais pas, comme personne ne sait sauf vous, qui a gagné et qui a été le dernier à ne pas rire. Quel a été votre rôle sur la conception du jeu? Vous êtes juste le présentateur, en même temps vous avez un talent d'écriture comique, vous le savez. Est-ce que vous avez écrit des épreuves par exemple?
Oui. On a essayé justement d'avoir des petites cartouches au cas où certains ne voulaient pas rire pour essayer de s'aider, d'alimenter aussi. Et après, comme l'émission était montée, on pouvait se permettre d'essayer plein de choses. Donc c'est ce qu'on a fait.
Du genre?
Par exemple, on faisait... Bon, j'ai que ça qui me vient en tête, je suis désolé. Les adaptations de films ou séries des candidats du jeu dans des films X, en fait.
Très bien.
Ça donnait des versions assez drôles, on s'amusait à trouver ça. Et du coup, les candidats découvraient ces affiches de films qu'on avait refaites pour essayer de leur décrocher des rires. Quoi.
Alexandre Alamy, un gars, une fille, c'est facile.
C'était, je crois, un gars, trois filles ou un truc comme ça, je crois.
Il y a les participants, le casting. Un mot avant de parler du casting, j'ai vu que dans le générique, il n'y avait pas moins de 11 auteurs et autrices.
Oui, c'est ça. En fait, chaque candidat avait un auteur pour essayer justement d'arriver...
Ah, j'ai compris.
Ouais. Chaque candidat avait un auteur justement pour préparer sa carte joker dont je vous parlais tout à l'heure. Ou pour essayer d'avoir des... Quand Kian, qu'on a écouté tout à l'heure, sort les répliques de Gérard, je sais qu'il les écrit avant.
Ouais.
Quand il dit « Gérard, c'est quoi déjà les films dans lesquels tes répliques cultes, c'est quoi ?» Ok. Mais je sais que ça, il l'avait préparé.
D'accord. Et Junio ne le savait pas,
évidemment.
Et là où Junio est très bon, ce qu'on a entendu, c'est qu'il joue le jeu direct.
Exactement.
Nord et Claire, dans son numéro du 13 avril, a relevé la liste des participants, je cite, « une parité parfaite ». C'est vrai, il y a 5 filles, 5 garçons. Et Nord et Claire ajoute « une diversité inattaquable ». Alors en l'occurrence, j'ai regardé, Kian Kojandi, dont vous venez de parler, d'origine iranienne. Tarek Boudali est d'origine marocaine. Hakim Djemili est d'origine tunisienne. Rim Kirsi est d'origine italo-tunisienne. Fadili Camara, d'origine guinéenne, sénégalaise et marocaine. Et enfin, Inès Reg est d'origine algérienne. 6 sur 10 en faveur de la diversité. Est-ce que c'est un choix de la production ou est-ce que ça s'est décidé, ça s'est fait comme ça?
Alors là, moi je peux pas vous dire, mais ça m'étonnerait qu'ils aient fait un casting par rapport à... Enfin, ça m'étonnerait, je pense pas. Et tant mieux après s'il y a de la diversité dans l'émission, hein, c'est super. Mais après, est-ce que le casting a été fait en fonction de ça? Je pense que ça a surtout été fait en fonction du talent de chacun et pas plus que ça.
Est-ce qu'il y aura une deuxième salve? Est-ce qu'il y aura une deuxième saison?
Alors, bah, c'est la bonne question. On verra si ça plaît au public.
Elle arrive à 9h53.
Moi, je le sais pas. Ouais. Et je pense que même Amazon et Endemol ne le savent pas eux-mêmes. Ça va dépendre. Bah, c'est comme tout. Hein. Si ça plaît, si ça marche.
Non, parce que parfois, on a tourné une deuxième émission.
Ce n'est pas le cas.
Vous avez tourné qu'une seule saison.
On a tourné qu'une seule saison.
6 heures de tournage pour 6 fois 26 minutes.
C'est ça. Ouais.
Vos projets, il y a un film qui va sortir. Ça, c'est pas un secret.
On l'espère.
Super héros malgré lui, le tournage est terminé. Vous avez déjà la date de sortie?
Alors, c'est le 20 octobre, ouais. Si tout va bien.
Si tout va bien. Le pitch de départ, ça on le connaît, ça peut vraiment faire des étincelles. Racontez le pitch de départ.
Oui, alors c'est l'histoire d'un comédien un petit peu loser qui se fait engager dans un film de super héros. Il est comme un dingue, un film un peu à la Batman. Donc tout va bien dans sa vie jusqu'au jour où il a un accident de voiture qui lui fait perdre la mémoire. Et malheureusement pour lui, il va croire qu'il va se prendre pour son propre rôle en pensant être un super-héros. Donc voilà.
À la base, moi, ça me fait déjà rire.
Il va faire le bien, mais mal, du coup.
D'accord. C'est vous?
C'est moi qui interprète l'acteur loser qui va se prendre pour un super-héros.
Ça se passe en France ou ça se passe aux États-Unis?
Ça se passe en France.
D'accord.
Ouais.
Et dans au casting, il y aura qui?
Au casting, il y aura ma bande, évidemment, que j'aime. Et puis après, plein de surprises. Jean-Hugues Anglade aussi qui sera avec nous.
Ah bon?
Et plein de surprises, plein de guests.
Comment ça se passe en ce moment pour vous, le cinéma? Tout est à l'arrêt, vous arrivez à tourner parce que vous faites partie, vous avez la chance de faire partie de ceux qui font des entrées. Comment ça se passe?
Moi, disons que j'ai eu de la chance, déjà j'ai tourné le film entre les deux confinements, on a eu la chance de ne pas être impacté, le tournage a pu se faire, j'ai pu finir même le film. J'écris aussi d'autres projets, donc l'écriture, j'ai la chance aussi que ça ne m'impacte pas. Après, là où ça se fait ressentir, c'est le problème, c'est les sorties. C'est-à-dire que là, il y a 400 films à sortir. Et il va y avoir un vrai problème d'embouteillage. Et le vrai problème pour le cinéma, c'est ça.
Peut-être que les salles vont ouvrir mi-mai. Vous y croyez pas ou vous n'avez pas d'avis?
J'espère, évidemment, j'espère. Ouais.
Voilà. Est-ce que ça a changé, votre façon d'écrire? On reçoit ici dans Culture Média, évidemment, beaucoup, beaucoup de créateurs, d'auteurs, pour qui certains, le confinement a tari l'inspiration.
Alors, moi, je sais que avec mes copains, on écrit souvent en se voyant. Donc là, on a écrit au téléphone et on a découvert que ça marchait très bien. Ouais. Donc nous, on n'a pas eu ce problème-là. Et au contraire, limite, ça nous a fait plus travailler même.
Un mot de votre film Nicky Larson, c'était en 2019, c'est bien ça? Ça avait très bien marché en France. 1,5 million, même plus, 1,6 million spectateurs. Film sorti en Chine et j'ai découvert que c'était le film français qui a le mieux marché en 2020.
Je l'ai découvert aussi. Ouais. Donc, bon, je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de films qui étaient sortis non plus. Mais j'étais fier quand même, effectivement, que...
Mais si c'est le seul film qui sort, ça vaut pas le coup.
Non, on n'était pas le seul quand même. Mais j'étais surpris et très fier. Après, c'est l'adaptation d'un dessin animé japonais.
Oui.
Et donc, je me suis dit, peut-être que les Chinois le connaissent aussi.
Et vous avez fait la tournée en Chine?
J'étais allé au Japon faire l'avant-première. C'était un grand moment pour moi. Parce que je me suis retrouvé, c'était l'adaptation d'un dessin animé, j'étais avec les voix japonaises, avec le créateur du dessin animé, devant une salle remplie de japonais. Et j'adapte un truc qui vient de chez eux. Donc c'est comme si des japonais venaient en France pour nous montrer Astérix. Donc c'était particulier, j'avais peur de l'accueil. Et au final, ça a été un accueil chaleureux et c'était un moment très fort pour moi.
Dernière question, comment va votre jambe?
Ma jambe, c'est gentil de vous inquiéter de ma santé.
C'est très important, parce que vous avez fait District Z avec des béquilles. Donc, j'ai même cru que vous étiez vous-même un zombie.
C'est le problème du sport de haut niveau, qu'est-ce que vous voulez, voilà.
C'est quoi votre sport de haut niveau?
Non, j'ai fait
pétanque.
Non, je suis nul au foot, j'ai fait un foot en salle avec des amis, je me suis claqué. Voilà. C'est moins cool.
Cas, tout va bien. Merci beaucoup, Philippe Lachaud. Je rappelle, cette émission LOL qui rit sort. C'est à partir d'aujourd'hui sur Amazon Prime Video. Il y a 6 épisodes, 5 dispo tout de suite. Et le 6e, ce sera à partir de mercredi pour pas qu'on connaisse la fin. Merci d'avoir été avec nous. Culture Média continue évidemment après le rappel des titres de 10h. On va recevoir Clémence Olivier pour son zapping du lendemain avec un documentaire choc sur le parcours de Britney Spears et Bertrand Chameroy pour son écran de veille qui souhaite bienvenue aux mariés. Notre invité, c'est l'auteur, humoriste, collègue à vous que vous connaissez peut-être, Élodie Poux. Elle va nous parler de son livre Déjanté, les minutes non éducatives d'Élodie Poux, et puis dans les indispensables, des films à voir avant les Oscars, et puis gastronomie avec Laurent Mariotte, des salades gourmandes pour le printemps. On a hâte, à tout de suite.
Europe 1, Culture Média.